J'ai terminé le premier chapitre du Lévitique et je le complète par des détails supplémentaires concernant les holocaustes qui nous sont donnés dans le chapitre 6 du même livre. Soir et matin, les prêtres devaient offrir un holocauste pour tout le peuple. D'après le texte donc, quand approchait l'heure de l'holocauste du matin, il fallait nettoyer l'autel et se débarrasser des cendres grasses, résidus de l'holocauste de la veille. Le prêtre sacrificateur, désigné par le sort pour cette fonction particulière, devait s'en acquitter, revêtu des vêtements officiels, ceux qu'il devait porter pour tout service dans le tabernacle. La cendre était d'abord déposée dans un coin à l'est de l'autel. Puis, quand il y en avait trop et que le moment était venu de la transporter hors du camp, le prêtre devait se changer et remettre ses habits ordinaires, on pourrait dire ses vêtements de ville aujourd'hui, sauf qu'ils étaient en plein désert. Les vêtements sacerdotaux ne devaient être utilisés qu'à l'intérieur du tabernacle, aussi appelé sanctuaire, pour bien marquer la distinction entre le sacré et le profane. Il emmenait donc les cendres qui étaient entreposées loin du cantonnement dans un endroit rituellement pur. Tout cela avait pour but d'enseigner au peuple la sainteté de l'Éternel et de le préparer à la venue du Messie qui remplacerait par son propre sacrifice tout ce cérémonial compliqué et contraignant. Je continue le texte. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et y brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Versets 12 et 13. Le matin venu, il y aura encore dans le foyer de l'autel suffisamment de braise pour allumer le bois de l'holocauste du matin, ainsi que pour faire fumer les graisses d'autres sacrifices qui pourront être offerts ce jour-là. Le vrai motif pour lequel on ne devait pas laisser éteindre le feu est qu'il était le symbole visible du culte ininterrompu que le peuple devait rendre à son Dieu. On trouve un usage semblable chez plusieurs peuples païens. Le feu ne devait jamais disparaître, pas même les jours du sabbat, ni pendant la marche, bien que l'autel d'airain fût emballé comme tous les autres objets sacrés. La tradition nous apprend qu'en voyage, on couvrait les braises d'une espèce de garde-feu et on emmenait tout ça. Voilà donc terminé ce petit intermède du chapitre 6 du livre du Lévitique que j'ai placé à la fin du chapitre 1er parce qu'il parle des holocaustes perpétuels. Cette offrande permanente est symbolique du ministère actuel de Jésus-Christ qui non seulement était totalement consacré à son Père, s'étant offert comme un sacrifice agréé par Dieu, mais présentement, alors qu'il porte sur lui, aujourd'hui même, les marques de la croix qu'on appelle les stigmates, il intercède en faveur de tous ceux qui lui font confiance. Un passage du Nouveau Testament souligne sa fonction présente alors qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Je le lis. Il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Fin de citation. Ce premier chapitre du Lévitique, et en particulier le premier verset qui dit « L'Éternel appela Moïse et lui dit depuis la tente de la rencontre, fais le pont avec le livre de l'Exode qui s'est terminé par le récit de la fabrication » et de l'entrée en service du tabernacle. Après sa description, il est donc logique que l'on précise comment on va y célébrer le culte. Les sept premiers chapitres du Lévitique sont donc consacrés aux divers types de sacrifices. Les cinq premiers indiquent les règles auxquelles doit se plier l'adorateur qui les offre, et les deux suivants précisent le rituel pour le prêtre qui officie. On devait offrir un holocauste à chaque fois que l'on voulait rendre un culte à l'Éternel. C'était la condition pour pouvoir s'approcher de lui et être agréé. il y avait une certaine valeur expiatoire, c'est-à-dire qui couvrait la culpabilité qui entache l'adorateur ou la nation, selon le cas. D'autres sacrifices seront prévus pour des transgressions particulières. Mais même si l'Israélite n'avait pas commis de délit particulier, il ne pouvait communier avec Dieu sans un sacrifice préalable. Par la suite, l'Holocauste servira plutôt à couvrir le péché en général. La nature mauvaise attachée à la condition de la nature humaine et dont l'Israélite devenait plus particulièrement conscient, justement au moment où il voulait renouveler la consécration de toute sa personne à son Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament souligne que les offrandes de l'Ancienne Alliance, et en particulier l'agneau, préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ qui s'est substitué aux coupables et a expié leur faute par sa mort sur la croix. Je cite un passage écrit par l'apôtre Pierre. « Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru pour agir en votre faveur. » Fin de citation. L'immolation du Christ a apaisé la colère divine, comme le précise ce passage du Nouveau Testament. Le Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Fin de citation. Tout comme la victime devait être sans défaut sous l'Ancienne Alliance, Jésus était parfaitement et absolument juste et saint. Si les croyants de l'Ancienne Alliance ont pu obtenir le pardon, c'était en prévision de la croix du Christ que les sacrifices d'animaux préfiguraient sous le régime de l'Ancien Testament. Nous voici maintenant au chapitre 2 du livre du Lévitique, où il est question de l'offrande végétale à partir de céréales. C'était des pâtisseries destinées à exprimer le sentiment de dépendance dont l'homme est pénétré dans la jouissance des dons de Dieu. Elles accompagnaient d'ordinaire les sacrifices d'animaux. Elles symbolisaient également l'équilibre idéal du caractère de Jésus-Christ et de son humanité parfaite. Je commence à lire le texte. « Lorsque quelqu'un apportera à l'Éternel une offrande, elle consistera en fleurs de farine qu'il arrosera d'huile et sur laquelle il mettra de l'encens. » Verset 1. Ici, nous sommes à n'importe quelle époque de l'année. L'Israélite a moulu du froment pour son usage personnel et il en prélève pour l'Éternel la plus fine partie. En ce temps-là, tout était préparé maison, à la main, avec des instruments rudimentaires, un peu comme ça se fait encore aujourd'hui dans les coins reculés d'Afrique. Donc, la farine était en général plutôt grossière et de mauvaise qualité. Or, l'Éternel demandait la fleur, c'est-à-dire un produit très finement moulu et sans impureté visible, ce qui prenait beaucoup de temps à préparer. Cette fleur de farine préfigurait l'homme parfait que sera Jésus-Christ, ainsi que la nouvelle race humaine dont il est la tête. Un passage du Nouveau Testament indique que les chrétiens, qui ont aujourd'hui une humanité tout aussi dégénérée que les non-croyants, deviendront parfaits comme le Christ. Je lis le verset. « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. » Fin de citation. L'homme tel qu'il est sur la planète est la plus grande faillite de l'univers. Voilà ce qu'écrit le prophète Ésaïe sur ses compatriotes. Je cite, « Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre langue susurre des paroles perfides. Personne n'invoque le droit et nul ne plaide selon la vérité. » On s'appuie sur des faussetés, l'on allègue des mensonges. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Les œuvres qu'ils produisent sont des œuvres mauvaises. De leurs mains, ils commettent des actes de violence. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal. Dévastation et destruction jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qu'ils se tracent sont des voies tortueuses. Fin de citation. Si vous pensez qu'on s'est amélioré, sachez qu'il vient de sortir un livre en anglais dont le titre est révélateur. Il s'appelle « La nation Pinocchio ». C'est tout dire. Il montre comment toutes les relations humaines sont sous-tendues par une forme de tromperie ou une autre. Ça vous choque? Connaissez-vous quelqu'un qui ne mente ou n'exagère jamais? Quant à la violence, il suffit de songer aux ressources colossales engagées dans le perfectionnement des instruments de guerre. Comment tuer mon voisin le plus efficacement possible est la quête insatiable de toutes les nations. Je m'arrêterai là. Je disais donc que la fine fleur de farine est représentative de l'humanité parfaite du Christ. Lui, en effet, était parfaitement équilibré dans toute sa conduite. D'un côté, il chassa avec une violence sainte les vendeurs dans le temple pour défendre l'intégrité de Dieu. Et d'un autre, il prenait les petits-enfants dans ses bras. Il enseignait avec une sagesse et une autorité inconnues de ceux qui l'écoutaient. Il était toujours prêt à accorder un bienfait, une guérison à qui le lui demandait. Il pleura sur la tombe de son ami avant de le ressusciter des morts. Il prononça un jugement sur Jérusalem et pardonna à la femme adultère. Il alla volontairement à la croix tout en étant parfaitement soumis à Dieu, son Père. Voilà donc pour la fleur de farine. Ce n'est pas tout. Il y avait aussi de l'huile qui joue en Orient le rôle du beurre chez nous. En général, l'huile, dans les textes sacrés, représente le Saint-Esprit. Quant à l'encens, il n'appartenait qu'à Dieu et ne devait pas être, comme l'huile, répandue sur la fleur de farine, qui, à part une poignée, devait être donnée ensuite au prêtre. Je continue le texte. « Il l'apportera au prêtre descendant d'Aaron. L'un d'eux prendra une pincée de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et le prêtre la fera brûler pour servir de mémorial sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. » Verset 2. Tout doit passer par les prêtres qui jouent le rôle de médiateurs. Une petite partie de la farine arrosée d'huile et de l'encens, dans sa totalité, représentait la part de Dieu et était consumée sur l'autel. Cette portion de l'offrande qui est brûlée sur l'autel monte au ciel et demeure devant l'Éternel comme un motif permanent de bienveillance et produise le bon plaisir et le bon vouloir divin. Je continue le texte. Ce qui restera de cette offrande reviendra à Aaron et à ses descendants comme part très sainte de ce qui est consumé par le feu pour être offert à l'Éternel. Verset 3. La plus grande partie de l'offrande est consommée, mangée par les prêtres qui apparaissent ainsi comme les mandataires de l'Éternel à qui elle a été offerte. Cela signifiait qu'ils prenaient sur eux, en tant que porte-parole du peuple, et symboliquement parlant, les fautes pour lesquelles elle était offerte. Ils représentaient dans leur fonction à la fois les Israélites, c'est-à-dire le peuple, et Dieu. Ce mélange de farine et d'huile ne pouvait être mangé que dans le parvis du sanctuaire, c'est-à-dire la cour entourant le tabernacle, et par les prêtres eux-mêmes. Je continue le texte. Lorsqu'on apportera une offrande de pâte cuite au four, elle consistera en gâteau sans levain fait avec de la fleur de farine pétrie avec de l'huile et en galette sans levain arrosée d'huile. Verset 4. Dans cette offrande, la fleur de farine n'est plus présentée à l'état naturel, mais apprêtée. L'Israélite préparait ce pain chez lui et l'apportait au prêtre tout cuit. Il pouvait l'être de trois manières principales. Au four, à la poêle ou dans une casserole. Le four était un objet transportable, une sorte de vase de terre d'un mètre de hauteur sur 50 cm de largeur, semblable à ces jarres dont les Arabes font encore actuellement usage. Lorsqu'il est suffisamment chauffé par le feu qui a été allumé, on applique la pâte contre la paroi intérieure du vase. L'ouverture est fermée au moyen d'un grand couvercle et peu de minutes suffisent pour cuire le contenu. Ce qu'on obtient ainsi, ce sont des gâteaux dans le cas où la pâte a été imbibée d'huile avant la cuisson. Des galettes lorsque la pâte n'est arrosée d'huile qu'après la cuisson. Je continue le texte. Si c'est une offrande rôtie sur le grill qu'on apporte, elle sera également faite de fleurs de farine pétries avec de l'huile sans addition de levain. On la coupera en morceaux et on versera de l'huile dessus. C'est une offrande. Si c'est une offrande de céréales cuite à la poêle qu'on apporte, elle sera composée de fleurs de farine et d'huile. On apportera l'offrande ainsi préparée à l'Éternel pour la remettre au prêtre qui l'approchera de l'autel. Il en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils comme part très sainte de ce qui est consumé par le feu pour être offert à l'Éternel. Versets 5 à 10. Cela ressemble beaucoup à une recette pour faire du pain ou de la polainte, si c'était de la farine de maïs. La poêle était une plaque, probablement en fer, légèrement convexe, et qui était soutenue un peu au-dessus du sol par des pierres entre lesquelles brûlait le feu. Ce qu'on retirait de la poêle était un pain que l'on rompait avant d'y mettre de l'huile, car le pain se brisait et ne se coupait pas. Encore aujourd'hui, du pain baigné dans de l'huile et du lait forme l'un des plats favoris des Arabes du désert. La casserole était un récipient assez profond muni d'un couvercle et où l'on pouvait au besoin faire bouillir de l'eau. Ce genre de cuisson fournissait une espèce de tourte d'une certaine épaisseur et qui se gonflait sans l'aide de levain. L'effet de celui-ci est souvent comparé à celui du mal. En conséquence, cette offrande ne devait pas en contenir. Son absence distinguait ce pain, réservé exclusivement au culte de l'Éternel, de la nourriture habituelle des Israélites. Plus tard, dans le livre, il est question de l'offrande des prémices des récoltes pour la fête de la Pentecôte, qui, elle, doit contenir du levain parce qu'elle vise à exprimer la reconnaissance de l'Israélite pour la nourriture qu'il consomme. En en redonnant une partie à l'Éternel, il reconnaît qu'elle est un don de Dieu. Dans la mesure où ces offrandes sont une image du Christ, alors il est plus facile de comprendre ses paroles lorsqu'il parla de manger sa chair et boire son sang de façon évidemment figurative, car le cannibalisme était une abomination pour les Juifs. Je rappelle ce passage de l'Évangile. Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. Et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Fin de citation. Je continue le texte. Quelle que soit l'offrande qu'on apportera à l'Éternel, elle ne devra pas être confectionnée avec du levain, car on ne brûlera jamais ni levain, ni miel pour l'Éternel. On en offrira à l'Éternel comme présent des premiers fruits, mais ils ne seront pas placés sur l'autel comme offrande d'odeur apaisante, versets 11 à 12. L'interdiction d'utiliser du levain est répétée et y est ajoutée celle du miel, qui faisait partie de la nourriture courante des Israélites. Une des raisons pour lesquelles ces substances ne devaient pas être offertes à l'Éternel est qu'elles fermentent, ce qui est une forme de corruption. Une autre raison est que leur absence sert à distinguer les produits réservés au seul usage cultuel des autres qui contenaient levain ou miel dont les Hébreux se nourrissaient. La distinction entre le sacré et le profane fait partie de l'éducation que Dieu donne à son peuple. C'est pour lui un des moyens qu'il utilise pour enseigner le concept de sainteté. Ce même objectif est également accompli par la désignation de ce qui est rituellement pur et impur. Dieu ne nous révèle pas comment ou pourquoi il classe certains animaux dans une catégorie pure ou impure. Mais peu importe, c'est le principe qui compte. Il y a un tel abîme entre la personne de Dieu et en particulier qui il est dans le domaine moral et la personne humaine, même la meilleure de toutes, que nous avons besoin d'apprendre petit à petit et à l'aide d'illustrations concrètes ce que ça veut dire quand l'Éternel déclare qu'il est saint. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.